Les colloques du Collège de France.
Mais nous allons passer maintenant à la dernière communication par François Desroches, qui n'a pas besoin d'être présenté, surtout pas en ces murs, puisqu'il occupe la chaire consacrée au Coran. Je rappellerai simplement ses liens également avec l'étude des manuscrits, puisque François Desroches a été pensionnaire à la Bibliothèque nationale de France et s'est consacré à l'étude notamment des manuscrits coraniques, mais pas seulement, puisqu'il a produit de nombreux catalogues de manuscrits arabo-islamiques. Et vous connaissez certainement tous ces très nombreux travaux consacrés aux manuscrits du Coran et au premier Coran, les Corans palimpseste, pour faire un lien avec la communication précédente, mais pas seulement. Et je rappellerai simplement qu'il est également membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et donc je vais lui passer la parole pour qu'il nous éclaire sur ce titre aussi attractif que mystérieux, sur lequel je ne peux absolument rien vous dire. Et donc c'est lui qui va nous en faire l'exégèse.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Ça n'est pas non plus une allusion au début du fameux morceau d'opéra « Nessun dorma ». Vous êtes tous, même si la matinée a été longue, parfaitement réveillés pour entendre ce que je vais vous dire à propos de manuscrits du Coran. Le statut particulier du texte coranique au sein des sociétés musulmanes du passé a suscité dès une époque ancienne des réflexions relatives aux exemplaires physiques dont nous pouvons nous faire une idée par les textes qui les documentent sur tel ou tel point, par exemple sur le traitement à réserver aux copies hors d'usage. La position des savants médiévaux à propos de ce que nous appelons les paratextes ne semble en revanche pas avoir donné lieu, pour ce qui est des Corans, à une présentation systématique, mais les manuscrits eux-mêmes nous permettent de nous faire une idée à ce propos, en plus de quelques remarques, c'est vrai, que nous avons conservées au détour d'un traité juridique. Le Coran, faut-il le rappeler, texte fondateur de l'islam, se trouve être le premier livre arabe, et la question souvent évoquée de traduction arabe de l'Ancien et du Nouveau Testament antérieur à l'apparition de l'islam reste un point ouvert sur lequel je ne vais pas entrer. La mise par écrit des révélations a sans doute commencé dès l'époque médinoise de la prédication, peut-être même avant, mais la codification au sens le plus littéral du terme est postérieure à 650. Le choix technique du codex trahit l'influence de traditions manuscrites proche-orientales où ce type de livre était la règle à cette époque, qu'il s'agisse du syriaque ou du copte, pour ne citer que celle-ci. Nous savons par ailleurs, par une source musulmane du 8e siècle, que des copistes chrétiens copiaient le Coran pour des commanditaires musulmans. Nous pouvons donc supposer que des pratiques relatives aux paratextes ont pu être connues par ce biais, mais la strate la plus ancienne de la tradition manuscrite arabe que nous connaissons, exclusivement formée de copies du Coran, n'en contient pas. Et d'ailleurs, elle ignore à ce moment les marges, ce qui la met hors champ pour le thème de ce colloque. Néanmoins, une tradition manuscrite se développe rapidement en dehors des Corans, qui sont, il faut le souligner, désignés par un terme spécifique, mushaf, à partir de 700 environ, porté à partir du 9e siècle par la révolution du papier qui modifie considérablement les conditions de ce développement. Elle maintient le modèle qui avait été mis en place pour les copies du Coran, mais introduit une nouveauté, la page de titre. Les plus anciens exemples de celle-ci remontent au 9e siècle, mais les copies du Coran ne sont pas concernées et de fait, elles ignoreront largement les pages de titre. Voilà un Coran plus tardif, mais la page, le premier feuillet que vous voyez donc sur la droite, n'a aucune indication de titre et le texte commence au feuillet inverso directement sans autre indication que ce soit. Ce qui n'est pas la règle pour les manuscrits non coraniques. Cette situation ne paraît pas avoir été totalement satisfaisante et une partie de nos manuscrits témoigne d'une recherche qui tire parti de l'introduction d'enluminure en différents points du texte, autre innovation que beaucoup des commentateurs juridiques anciens rejettent. Au IXe siècle, les frontispices de copies du Coran commencèrent à introduire de courts textes qui permettent de mieux cerner les représentations que s'en faisaient commanditaires et lecteurs. Il s'agit de formules pieuses que je vous ai énumérées ici et illustrées avec cette reproduction d'une double page qui ressemble beaucoup aux doubles pages en épigraphe qu'on a à l'époque, mais qui inclut une shahada, c'est-à-dire une profession de foi musulmane, un peu développée. Ces brèves légendes, dont certaines décorent aussi des reliures, il faut le souligner, reprennent des formulations qui figurent dans le Coran ou s'en inspirent en faisant le choix de mettre en avant le nom divin. Il n'est pas question de Coran, mais la source de la révélation est mentionnée, son auteur en quelque sorte. Cette tradition se maintint au moins jusqu'au XIe siècle, à l'occasion associée avec des décomptes enluminés des éléments constitutifs du Coran sur lesquels je vais revenir. Un exemplaire réalisé à Bagdad en 1036 n'a conservé que la seconde moitié d'une liste des beaux noms de Dieu, mais aussi deux courtes formules, Al-Mulk Lillah et Lillah, donc la royauté appartient à Dieu et appartient à Dieu tout court, ainsi d'ailleurs que la signature de l'enlumineur. Dans un manuscrit achevé en 1021, peut-être aussi à Bagdad, la moitié des deux frontispices qui ont survécu présentent le début d'un décompte des versets d'une part, ou des éléments constitutifs du Coran d'une part, certains des beaux noms et la fin de la citation Coran 3, verset 18 et début de 19. Retenons donc pour le moment uniquement les premiers. Ils placent Allah au premier plan et coïncide donc avec les exemplaires les plus anciens que nous ayons, qui remontent au IXe siècle. Une autre stratégie qui consiste à indiquer en tête de volume le décompte des éléments constitutifs du Coran, les sourates, les versets, les mots, les lettres, apparaît en concurrence ou en combinaison avec la précédente. L'allusion est alors directe. Cette information est en effet étroitement liée au contenu du manuscrit, notamment lorsque sont signalés en premier lieu des sourates ou des versets, deux mots spécialisés qui renvoient exclusivement à des éléments propres au Coran. Ces données, qui font par ailleurs l'objet de traités spécialisés, n'apparaissent dans les Corans que sous forme d'enluminure, qu'il s'agisse d'un frontispice à l'intérieur duquel figure le décompte ou que la liste soit écrite en caractère doré. En dépit de son apparence technique et du fait qu'elle semble compléter les indications relatives au nombre des versets qui figurent dans les titres des sourates, elle n'a jamais constitué une donnée indispensable au Moussaf. L'exemple probablement le plus ancien figure sur un manuscrit qui est conservé maintenant à Istanbul et qui peut, sur la base de la paléographie, être daté de la seconde moitié du IXe siècle. Légèrement postérieur, le Coran en 28 volumes, dont l'essentiel est conservé de nos jours à Kairouan, donne cette information pour chacun des volumes de la série. Au siècle suivant, plusieurs exemples sont connus. On peut ainsi relever une copie achevée en 972, probablement en Iran, et une autre réalisée à Isfahan, donc en Iran, en 993. Quand les copies comportent une séquence de deux frontispices ou davantage, celui qui contient ces données est placé en tête. Cette pratique semble avoir persisté au moins jusqu'au XIIe siècle. Un Coran copié à Palerme en 982-983 occupe au sein de notre corpus une place à part. Sur la double page initiale, dont vous voyez ici une moitié, un texte relativement long forme l'encadrement du champ de l'enluminure. C'est-à-dire que tout ceci, c'est en fait un texte et également ce qui se trouve dans la vignette. Et il incorpore le colophon proprement dit, avec la mention de Palerme, et une formule pieuse en faveur du copiste et des musulmans, ainsi qu'une ologie pour le prophète. Le texte s'achève dans la vignette, placée dans la marge de gouttière, par la citation de, des versets 77 à 80, de la sourate 56, dont je vous ai mis la traduction sur le côté. Sur le feuillet qui fait face, dans la vignette symétrique à la précédente, nous avons un autre texte qui consiste en une shahada, donc une profession de foi, cette fois-ci dans sa forme simple, suivie d'une déclaration anti-moutazilite sur le caractère incréé du Coran. Il s'agit du premier frontispice daté, on en a d'autres avant, mais qui sont datables simplement, premier frontispice daté, qui inclut des versets où figurent les mots « Qur'an » et « Kitab » et « Tanzil hein, » que j'ai mis sur l'écran, donc « Coran »,« Livre »,« Écriture » et « Révélation ». Qu'il soit placé en face de la profession de foi, accompagné d'une affirmation anti-moutazilite, n'est sans doute pas un hasard. Il se pourrait que le Xe siècle ait vu s'opérer un changement de perception lorsque les adversaires des moutazilites virent leur point de vue prendre le dessus. C'est de cette période que date une nouvelle façon de faire qui allait s'imposer dans la tradition manuscrite du Coran, mais de manière limitée. À cette même époque, une transformation de cette tradition manuscrite s'amorçait. Les écritures très spécifiques qui avaient été employées jusqu'alors pour les copies du texte sacré sortaient d'usage et celles qui étaient alignées sur la pratique courante s'imposaient à leur place. En outre, le format et la reliure des Corans se conformaient à ce qui se faisait pour d'autres textes. Autrement dit, on passait du format oblong ou à l'italienne au format vertical. Dès lors, la forte identité visuelle du manuscrit coranique des 8e-9e siècles commençait à s'estomper fortement et il devenait plus important de trouver des solutions visant à la fois à identifier ces manuscrits et à mettre en lumière tel ou tel aspect. Une page de titre aurait pu représenter une solution, mais ce type de paratexte, avec les indications fondamentales que sont le titre et le nom de l'auteur, bien qu'attesté dès le IXe siècle, ne trouve pas sa place dans le Coran et qui, visiblement, ne pouvait être traité que de la même manière que n'importe quelle autre production littéraire arabe de l'époque. Une des particularités du texte coranique est son autoréférentialité. Elle a retenu l'attention des commentateurs récents, mais était tout à fait familière aux savants médiévaux. Différents termes sont concernés, Qur'an, bien sûr, mais aussi Kitab, que j'ai mentionné, ou encore Dhikr, mais il y a comme cela toute une série de mots qui, dans le Coran, font référence au texte des révélations. Des passages où ils figurent vont dès lors s'imposer dans les copies enluminées, et je souligne dans les copies enluminées, comme un substitut de titre. Ce procédé allusif pourrait représenter une évolution de ces décomptes que j'ai signalés et qui sont attestés dès la seconde moitié du IXe siècle. Un Coran daté de 1177, qui pourrait provenir de l'Iran oriental, s'ouvre par une série de trois enluminures, dont deux frontispices épigraphes avec la citation de la sourate 59, versets 21 et 22, où il y a donc le mot « Qur'an », je l'ai souligné, c'est en début de la citation. Le premier verset s'inscrit parfaitement dans le groupe de ces substituts de titres et rejoint la citation de la sourate 17, verset 88, dans l'expression du caractère miraculeux du Coran. Un deuxième frontispice dans ce même manuscrit enfonce en quelque sorte le clou. Il utilise le très populaire passage de la sourate 56, les versets 79 à 80, qui a connu, on le verra, un très large succès par rapport à d'autres citations coraniques contenant le mot « Qur'an » ou l'un de ses synonymes, au point de s'imposer peu à peu comme substitut de titre dans les exemplaires enluminés. Il est employé soit dans son intégralité, donc avec le texte que vous avez ici, soit réduit au seul verset 79, « Seul le touche les purifiés », soit plus rarement, en incluant le verset 81, c'est une révélation du Seigneur des mondes qui arrive dans le dernier cartouche de cette double page initiale. Comme le montrent ces deux derniers... J'ai dû inverser ma diapositive. Voilà, c'est celui-ci où vous me croyez sur parole dans la mesure où le déchiffrement de cette inscription n'est pas forcément la chose la plus facile. Comme le montrent les deux derniers exemples, ces quatre brefs versets de taille à peu près équivalente s'adaptent particulièrement bien à la structure des frontispices, ou plutôt des cadres d'incipit des manuscrits coraniques, ce qui explique qu'ils se glissent dans cette position sur la première double page de texte. Cette situation n'est pas totalement inédite dans la tradition musulmane, de la tradition manuscrite en caractères arabes, où le titre apparaît souvent dans l'enluminure qui accompagne l'incipit. Ici, vous avez le nom de l'auteur qui est dans le bandeau initial en haut de la page, en dessous de la basmala.
Les
exemples de l'utilisation de cette citation de la sourate 56 couvrent un vaste espace et s'étendent sur une très longue durée, depuis le Coran de Palerme du Xe siècle jusqu'à des éditions imprimées contemporaines. De cette rapide cartographie des utilisations de ce passage ressort la très faible présence de l'Occident musulman, même si Palerme est notre plus ancienne attestation, puisque dans cette région, de manière générale, les enluminures initiales comportant une épigraphe semblent constituer une exception. Dans les manuscrits du Coran exécutés en Iran au XVIe siècle ou adoptant la même séquence initiale des décors, la première double page est souvent occupée par deux médaillons symétriques en étoiles, qu'ils soient intégrés ou non à une enluminure plus vaste, où figure la citation de la sourate 17, le verset 88, que je vous ai traduit en marge, et vous voyez que très souvent la césure à l'intérieur du verset se fait entre le démonstratif et le mot « Qur'an » qui est le premier de la deuxième étoile. Parmi les nombreux exemples connus, on peut citer le manuscrit de Berlin de 1546, de la Chester Beatty, islamique 1546, copié en Iran en 1498, le verset 80 de cette même sourate précède la citation. Cette citation apparaît encore sur un autre Coran légèrement postérieur de la même collection, le numéro 1525, ou encore dans un autre Coran dans une collection privée réalisée à Shiraz en 1564-1565. Donc il y a visiblement un phénomène de mode à l'époque en faveur de cette citation. Ce verset est du nombre de ceux que la tradition musulmane invoque, et ça n'est pas un hasard, à l'appui de la notion d'inimitabilité du Coran, ce qui laisse penser que ces titres ont également une fonction, disons, apologétique. D'autres versets ont été semblablement utilisés en tête de Mus'haf, mais leur diffusion paraît plus réduite, dans l'état actuel du moins, de notre documentation. Il arrive d'ailleurs qu'ils soient associés à d'autres, plus communs dans cette fonction, de substitut de titres. Relevons tout d'abord ceux où figure le mot « Qur'an » et qui remplissent leur rôle de la manière la plus évidente. Dans un manuscrit copié en 1289, vraisemblablement à Bagdad, les citations apparaissent dans des bandeaux du cadre d'incipit, lequel fait suite à un frontispice, un épigraphe. Et ce cas montre qu'il y a une sorte de patchwork de citations qui permettent d'enfoncer le clou plus facilement. Ce sont en fait ici trois passages différents qui ont été repris, mais on a d'autres exemples où on combine deux voire trois citations. Ce n'est plus Qur'an, mais Kitab, livre, écriture, qui apparaît dans la sourate 41, versets 41-42, associé au mot Tanzil, révélation, sur un demi-frontispice d'une copie qui a été exécutée au cours du Xe siècle à Kairouan. Pardon, là j'ai sauté une diapositive. Voilà, oui, pardon, c'est cette diapositive. Un Coran un peu plus tardif que celui qui figure à l'écran, daté de 1177, et qui pourrait provenir d'Iran oriental, pourrait prendre place comme un exemple au milieu dans cette série, en incluant en plus un élément apologétique, puisque la dernière partie contient la même formule que celle qu'on a vue sur le Coran de Palerme, c'est-à-dire une affirmation anti-moutazilite affirmant que le Coran est la parole incréée de Dieu. Dans deux manuscrits dont malheureusement je n'ai pas de reproduction, l'utilisation de citations coraniques pourrait avoir visé à signaler soit une production dans un cadre politique, soit une allégeance, soit enfin une marque de possession discrète. Mais dans tous les cas, l'allusion passe par la citation coranique. Le premier, un manuscrit qui est à Istanbul, est datable du Xe siècle. Seule subsiste la moitié gauche d'un frontispice au centre duquel on lit la fin de la sourate 61, verset 13. À l'origine, le texte complet devait être « Secours d'Allah et succès prochain » annonce la bonne nouvelle aux croyants. L'impératif « Bachir » annonce la bonne nouvelle peut être compris comme une référence à la prédication du Coran et représenter une désignation allusive similaire aux précédentes. Mais cette citation, qui n'est pas attestée à ma connaissance sur d'autres manuscrits coraniques, pourrait s'expliquer par sa première partie, utilisée pour son caractère propitiatoire par la dynastie fatimide qui régna sur l'Égypte de 969 à 1171 et figure tant sur ses inscriptions que sur ses étendards. Cette copie pourrait donc avoir été produite dans un milieu dont nous faisons l'hypothèse qu'il était fatimide et qu'il a joué sur l'utilisation d'une allusion coranique comme cela commençait à se faire à cette époque. Dans un Coran en écriture maghrébine, ça n'est pas bien sûr une représentation du Coran que vous voyez à l'écran, daté de 1287, la formule n'est pas une citation mais une allusion au Coran, avec une devise inspirée par le verset 21 de la sourate 12, qui a été utilisée par les Nasrides de Grenade, qui règnent entre 1237 et 1492, et que l'on trouve, et c'est là l'origine de mon illustration, sur les murs de l'Alhambra. « Wala Khalib illallah ». Je ne connais pas de texte où soit débattue la question de la page de titre des copies du Coran, comme je l'ai dit à l'origine. Celles-ci ne se confondent pas avec le reste de la production manuscrite ou par la suite imprimée. Leur désignation par un terme spécifique, mushaf, leur confère de toute façon une identité à part. L'absence de titre semble faire partie de cette dernière, puisque l'écrasante majorité des manuscrits coraniques, comme le montrait ma première diapositive, est dans ce cas, ce qui justifie le choix de mon titre, personne ne connaît le titre, alors que les autres manuscrits ont le droit d'être identifiés par la page de titre. Les copies enluminées constituent, dans ce contexte, une exception, probablement né de la constatation qu'une page de titre de la qualité la plus diverse accompagnait la majorité des livres de contenu autre que coranique. Un titre au sens strict n'était pas admissible, peut-être parce que le nom de l'auteur représentait une difficulté. Cela invitait donc à rester dans le domaine de l'allusion, ce qui rejoignait d'une certaine manière les méthodes déployées initialement pour donner au mushaf une identité visuelle forte. L'insistance initiale mise sur l'émetteur du message coranique, Dieu, s'est volontiers accompagnée de formules pieuses. Vers le Xe siècle, il y aurait eu un changement d'approche qui conduisit à l'adoption d'un nouveau procédé, la citation, qui s'appuyait sur l'autoréférentialité du texte sacré, mais permettait aussi de mettre l'accent sur la révélation elle-même. Il n'est pas d'ailleurs anodin que la majorité des passages choisis commencent soit par une particule qui, en arabe, introduit, disons, une déclaration faite avec insistance, soit par la forme prochaine du démonstratif, qui pourrait, a priori, paraître superflu dans l'emploi qui est fait, mais dont la force énonciatrice convient bien à la fonction qui lui est attribuée. Le procédé allusif de la citation, par sa nature même, présentait l'avantage ou l'inconvénient d'exprimer davantage que ne l'aurait fait un titre au sens strict, puisqu'il y avait, bien sûr, toute une connotation théologique qui pouvait y être associée. Il n'est pas à exclure que l'exploitation de ces possibilités, dont nous pensons avoir trouvé des exemples dans le corpus limité utilisé pour cette intervention, ait pu favoriser ponctuellement telle citation ou telle devise. Faut-il établir un lien entre la réorientation que je crois pouvoir discerner au Xe siècle et le débat entre les Mu'tazilites et leurs adversaires ? Elle pourrait, dans une certaine mesure, expliquer le transfert de l'autoréférence interne, spécifique au texte coranique, vers sa périphérie, le paratexte, pour nommer le contenu du Mus'haf. Ces exemples ne représentent toutefois, il faut le souligner à nouveau, qu'une partie du corpus des décors figurant en tête de volume, qui reste majoritairement un épigraphe, et les copies enluminées ne formant à leur tour qu'une proportion de l'ensemble des manuscrits coraniques conservés. Ils sont particulièrement précieux dans la mesure où ils nous fournissent une clé pour comprendre ce que les musulmans de cette période reconnaissaient dans le Mus'haf et le rôle qu'ils attribuaient à ces introductions muettes que constituaient les enluminures. Cette tradition, et c'est intéressant, a survécu au passage à imprimer, comme le montre cette page de titre, entre guillemets, d'un Coran imprimé récemment en Turquie, qui n'est pas spécialement joli, mais enfin qui montre à quel point les formules médiévales ont eu une postérité au moment où l'imprimé, à partir du XIXe siècle, s'est imposé dans le monde musulman. Nul ne connaît son nom, mais chacun sait de quoi il s'agit. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.